Donc il y aura trois parties. Je repars dans mes habitudes. La première partie, c'est plutôt par rapport au passé, justement, assainir le passé, la purification. Alors on trouve ça notamment dans la première partie de la... Je vais principalement m'inspirer de l'introduction à la vie dévote. Donc c'est beaucoup dans la première partie, ça. Après la deuxième partie, je vous parlerai de l'ascèse, comme Saint François de Sales en parle. Enfin, j'essaierai de faire ce que je peux. Puis la troisième partie, c'est plutôt sur les tentations. Voilà, donc, par rapport au passé, par rapport à l'ascèse et par rapport aux tentations. Ça va ? C'est clair ? Alors, je suis tout simplement ce qu'écrit François de Sales. Sa première préoccupation, c'est quand on veut avancer vers la sainteté, ben, il faut faire un peu de ménage. La première chose, c'est de faire un petit peu de ménage. Et donc, de savoir aussi que, ben, voilà, il faut commencer par purifier l'âme, c'est le titre du chapitre 5. Et c'est le temps de démonter, de tailler et de retrancher de notre conscience toutes les œuvres mortes et superflues. Voilà, se dépouiller du vieil homme, etc. Alors, il dit que ben, voilà, ça prend un peu de temps. Désolé. Il a des expressions assez belles. Le mal arrive à cheval et en poste et s'en retourne à pied et au petit pas. Donc, je ne vais pas vous plomber le moral, hein, mais oui, il arrive vite. Voilà, donc il faut savoir, de ce point de vue-là, François de Sales ne nous plonge pas dans l'illusion. Ça prend un peu de temps. Je ne vous lis pas tout, hein, mais vous pourrez le charger après sur le site. Deuxième élément, c'est couper court avec les fautes graves. Alors, il parle de la confession, du premier retranchement, c'est le chapitre 6, qui est celui des péchés mortels. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce qu'on appelle un péché mortel. Peut-être un petit... il faut trois conditions simultanées pour qualifier un péché de mortel. Mortel parce qu'il tue la vie de Dieu en nous. Donc il faut qu'il y ait une matière qui soit grave. Tuer un moustique ou une personne, c'est pas la même chose. Enfin, je vous le dis au cas où. Donc la matière n'est pas la même. Donc tuer un moustique tranquillement, il n'y a pas besoin d'absolution. Ça, c'est la première chose, c'est la matière. Après, une deuxième chose, c'est que ça soit volontaire. Et quelquefois, il peut y avoir des fautes. On est sous pression ou tout ça. Donc, ça enlève une part de notre liberté. Ce n'est pas totalement libre. Et puis, une autre condition, c'est qu'on sache que c'est mal. Si on ne sait pas que c'est mal, je ne sais pas que c'est mal de tuer quelqu'un. Alors après, on peut repousser un petit peu, peut-être que je devrais le savoir, je devrais former un peu ma conscience, etc. Mais de fait, si on ne sait pas que c'est mal, et de là on voit aussi l'impact de certaines lois qui viennent transformer un petit peu. Du coup, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne se rendent pas compte de la gravité, puisque la loi le permet. Voilà. Donc, un péché mortel, hein, pour prendre cette dénomination, c'est il faut que la matière soit grave, il faut qu'il y ait la connaissance et il faut qu'il y ait la volonté, hein, la liberté qui est la connaissance et la liberté. Ça, vous trouvez ça dans le catéchisme, hein, si vous voulez travailler un peu ça, pas de souci. Alors, en tout cas, donc François de Sales recommande la confession générale. Alors nous, ça nous paraît quelquefois un peu bizarre, ça se pratique quelquefois à l'occasion de certaines retraites, mais quelquefois on se dit, mais bon, si c'est déjà pardonné, je ne vais pas le reconfesser une deuxième fois. Donc quelquefois on est plus ou moins à l'aise avec cette question de confession générale. quand Dieu a pardonné, c'est pardonné. Donc, il n'y a pas besoin en soi d'en demander pardon une deuxième fois. Là, c'est plutôt, il le dit, alors je vais vous le citer quand même là. Une telle confession générale n'est pas toujours absolument nécessaire, mais elle est cependant extrêmement bonne et utile dans les commencements. Aussi, je vous conseille fort d'y recourir. Souvent, les confessions ordinaires de ceux qui vivent d'une vie tiède et commune sont remplies de grands défauts. On ne se prépare point ou fort peu. On n'a point la contrition requise. On va se confesser avec la volonté tacite de retourner au péché. On ne veut pas éviter les occasions dangereuses ni prendre les moyens nécessaires pour réformer sa vie. En tous ces cas, la confession générale est indispensable pour assurer le salut. Mais en plus, la confession générale nous appelle à la connaissance de nous-mêmes, nous provoque à une salutaire confusion pour notre vie passée, nous fait admirer la miséricorde de Dieu qui nous a attendus si patiemment. Elle apaise nos cœurs, délasse nos esprits, excite en nous de bonnes résolutions, donne sujet à notre Père spirituel de nous dire les choses convenables à notre position, et enfin nous ouvre le cœur pour confesser nos péchés à l'avenir avec plus de confiance et de sincérité. Voilà, donc la confession générale prise dans ce sens-là, comme le présente, c'est vraiment pour un nouveau départ. La confession générale, c'est pas une confession à la sauvette, mais vraiment, on veut vraiment reprendre un nouveau départ, et voilà. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Ah non, 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 c'est devant le prêtre. Ah ben, vous pouvez si vous voulez. Vous aurez déjà fait la pénitence pour une part. C'est parce que c'est tous les péchés. Même quand vous aviez 10 ans, hein, c'est tous les péchés. Même. Donc c'est en sens ça qu'elle est générale. Hein, c'est pas devant Pascal, vous dites, non, non. L'Église ne demande jamais de dire nos péchés devant les autres. Alors ce qu'on fait, la communauté, ce qu'on fait, mais ce n'est pas une confession, c'est les culpes le lundi matin. Mais c'est au niveau du fort externe. Si on s'est mis en colère, tout le monde l'a vu. Hein, on demande pardon de s'être mis en colère. Mais on ne dit pas les intentions avec qui, peut-être, qui nous habitaient le cœur. Ah, je voulais l'étrangler. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Au contraire. Mais bon, ça, c'est les coupes. C'est un peu différent. Et ça, c'est devant tous les frères. Voilà. Mais quand vous êtes là, on s'abstient. Oui, on se demande pardon entre nous. Oui. Voilà. Mais ça reste au niveau ce qu'on appelle le fort externe. Hein. On ne dit pas ce qui nous habitait. Ça, quelquefois, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Donc, ça demande un peu d'intelligence. Bon, j'aurais pas dû me mettre en colère, mais je dis pas. On n'est pas obligé de tout dire. Hein. Voilà. Alors ça, c'est très caractéristique de saint François de Sales. Il dit, le péché, il est mauvais quand on le commet, mais il est beau quand on l'accuse. Alors voilà ce qu'il dit. La contrition et la confession sont comme des fleurs belles et suaves qui effacent la laideur du péché et en dissipent la mauvaise odeur. Et voilà ce qu'il dit un peu plus loin. Quand vous serez arrivé devant votre Père spirituel, imaginez-vous être à la montagne du Calvaire sous les pieds de Jésus-Christ crucifié, dont le précieux sang coule de toutes parts pour vous laver de vos iniquités. Ouvrez donc bien votre cœur pour en faire sortir les péchés par la confession. Alors, il y a des belles pages de François de Sales, mais voilà, donc ça, la confession au sens strict, c'est d'abord pour les fautes graves, ce qu'on appelle les péchés mortels. Mais la confession, c'est aussi, on n'est pas obligé d'attendre de faire des fautes graves pour aller se confesser. Et alors, au chapitre 19, alors en revanche, ça c'est dans la deuxième partie, il parle de la confession. Alors, c'est intéressant aussi la manière dont François de Sales en parle. Lui, ça ne l'intéresse pas forcément de dire de brut de décoffrage ce qu'on a fait de mal. Il aime qu'on se creuse un petit peu la tête. Je vais vous le citer. Alors, par la confession, vous ne recevrez pas seulement l'absolution des péchés véniels que vous confesserez, mais vous recevrez encore une grande force pour les éviter à l'avenir, une grande lumière pour les bien discerner et une grâce abondante pour réparer tout le dommage qu'ils vous ont causé. Vous pratiquerez en outre la vertu d'humilité, d'obéissance, de simplicité et de charité, en sorte que par cette seule action, vous pratiquerez plus de vertu que par aucune autre. Alors, du coup, il va un peu plus dans le concret. Il y a toujours une vraie douleur des péchés que vous confesserez, quelque petit qu'il soit, et soyez bien résolus de vous en corriger à l'avenir. Ça, c'est, il y a deux éléments dans l'acte de contrition traditionnel. Il y a regretter ce qu'on a fait, parce que si on ne regrette pas, c'est un peu limite. Alors, quelquefois, la contrition n'est pas parfaite. On n'est pas forcément obligé d'attendre d'avoir une contrition parfaite pour se confesser, parce que quelquefois, on pourrait attendre longtemps d'avoir une contrition parfaite. Mais je pense qu'il faut déjà se confesser, même si la contrition. Il faut un minimum de contrition, bien sûr. Mais quelquefois, il vaut mieux déjà commencer à se confesser, et puis petit à petit. Voilà, on y arrivera à la contrition parfaite. Ça, c'est plus par rapport au passé. Et puis par rapport à l'avenir, c'est la résolution. Est-ce que j'ai envie de changer? Parce qu'une chose est de regretter le passé, autre chose est. Est-ce que je prends les moyens aussi de changer? Parce que si je ne prends pas les moyens de changer, je reviendrai la fois suivante, je dirai exactement la même chose et je n'aurai pas bougé d'un pouce. Donc là, on voit le souci de pasteur aussi de Saint François de Sales. Vraiment, il souhaite que si on va se confesser, ça soit vraiment pour un progrès aussi. Ça ne soit pas juste aller un coup d'éponge et puis on recommence de plus belle. Alors, je vous le cite encore, il va assez dans le détail. Retranchez de votre confession ces accusations superflues que plusieurs font par routine. Je n'ai pas aimé Dieu comme je le devais. Il dit non, ça c'est superflu. Mais précisez pourquoi vous n'avez pas aimé Dieu. Je n'ai pas prié avec autant de dévotion que je le devrais. Ben non, il dit ça c'est une accusation superflue pour François de Sales. Je n'ai pas reçu les sacrements avec le respect que je devais. Voilà, et tout le reste. La raison est qu'en disant cela, vous ne dites rien de particulier qui puisse faire connaître au confesseur l'état de votre conscience. D'autant que tous les saints du paradis et tous les hommes de la terre pourraient dire les mêmes choses s'ils se confessaient. Examinez donc quels motifs particuliers vous avez pour faire ces sortes d'accusations. Et lorsque vous l'avez découvert, accusez-vous de votre faute tout simplement et naïvement. Par exemple, vous vous accusez de n'avoir pas aimé le prochain comme vous le deviez. C'est peut-être parce qu'ayant vu quelques pauvres fort nécessiteux, que vous pouviez facilement secourir et soulager, vous n'en avez eu nul soin. Eh bien, accusez-vous de cette particularité et dites, ayant vu un pauvre nécessiteux, je ne l'ai pas secouru comme je pouvais, par négligence ou par dureté de cœur ou par mépris, selon que vous connaîtrez quel motif a donné lieu à votre faute. Sans parler de ces choses générales qui ne font ni froid ni chaud dans la confession. Pour la confession, c'est pour que ça soit un instrument aussi qui nous aide à progresser, c'est d'essayer de regarder un petit. C'est pas seulement couper l'herbe qui dépasse quelque part, c'est enlever un peu les racines. Donc c'est pour ça la préparation de la confession est importante pour voir. Alors il prend un autre exemple. Dites aussi si ça s'est reproduit souvent, etc. Alors voilà, alors par exemple. Ne manquez point de dire ce qui est nécessaire pour bien faire comprendre la qualité de votre offense, comme le sujet que vous avez eu de vous mettre en colère ou de vous montrer indulgente pour tel vice. Il écrit à des femmes, hein, c'est Philothée, hein, et le traité de l'amour de Dieu, c'est Théotime, donc c'est au masculin. Mais voilà. Alors, par exemple, un homme qui me déplaît me dira quelques légères paroles pour rire. Je la prendrai en mauvaise part et je me mettrai en colère. Que si un autre m'eût été agréable, en eût dit autant et même davantage, je l'eusse pris en bonne part et ne me serais aucunement fâché. Je dirai donc, en m'accusant, que je me suis échappé en des paroles d'aigreur, ayant pris en mauvaise part quelque chose que l'on me disait, non point à cause des paroles en elles-mêmes, mais à cause de celui qui me les disait et qui m'était désagréable. En s'accusant ainsi naïvement, on ne découvre pas seulement les péchés que l'on a faits, mais encore les mauvaises inclinations, les coutumes, les occasions et autres racines du péché. Voilà. Alors, donc, c'est intéressant. Hein. Le but de François de Sales, c'est d'aider les gens, de les faire progresser dans la vie spirituelle. Mais ce n'est pas juste un coup d'éponge et puis on repart comme si de rien n'était. Donc, je vous ai parlé déjà de volonté de couper court avec le mal, volonté de se confesser, de couper court avec les fautes. Et la troisième point, c'est couper court avec ce qu'il appelle les affections au péché, les inclinations au péché. Alors là, c'est un peu différent, vous voyez. On va un peu plus... Tous les Israélites sortirent de la terre d'Égypte, mais tous n'en sortirent pas de cœur et d'affection. Aussi, quand ils furent dans le désert, plusieurs regrettaient les oignons et les viandes d'Égypte. Ainsi, il y a des pécheurs qui sortent effectivement du péché et qui n'en perdent pas pour autant l'affection. Ils se proposent bien de ne plus pécher, mais c'est avec une certaine répugnance à se priver des plaisirs du péché. Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné, à mon avis, dans la réflexion qu'il fait quand son père va à sa rencontre, il dit « Ton fils qui est là a dépensé son bien avec des filles ». Quelque part, on se demande s'il n'aurait pas eu envie de faire la même chose que son frère. Ça, c'est typique d'une affection au péché, comme dit. Bon, il ne l'a pas fait parce que ça ne se fait pas, mais en même temps, il en avait un peu envie. Donc, mais du coup, on voit François de Sales qui est assez exigeant aussi, mais dans le bon sens, hein, pour nous dire, voilà, il ne s'agit pas seulement de regretter le péché, mais voilà, d'être heureux de suivre Jésus. Pas le suivre à contre-cœur, quelque part. Bon, je ne le fais pas parce que ça ne se fait pas quand on est pratiquant, tout ça. Mais je suis un peu jaloux de ceux qui peuvent se permettre ça parce qu'ils ne vont pas à la messe le dimanche. Vous sentez, ça c'est vrai. Alors on ne le fait pas, formellement on ne le fait pas, mais il y a ce ver hein, qui vient nous tarauder un petit peu. Voilà ce qu'il dit, je vous laisse, vous lirez. Hein, ça, c'est au chapitre 7 de la première partie, ça, les affections au péché. De même, ces faibles et lâches pénitents s'abstiennent pour quelque temps du péché. Mais c'est un regret. Ils voudraient bien pouvoir pécher, mais sans être damnés. Voilà, c'est ceux qui sont assis entre deux chaises. C'est notre cas, quelquefois. Oui, la loi divine est bien gênante. Etc. Philoté. Puisque vous voulez entreprendre la vie dévote, la vie sainte, il ne faut pas seulement vous contenter de quitter le péché, mais il faut encore délivrer tout à fait votre cœur des actions qui dépendent du péché. Les âmes qui, après avoir quitté le péché, ont encore ses affections et ses langueurs, ressemblent à mon avis aux personnes qui ont les pâles couleurs. Elles ne sont pas absolument malades, mais elles mangent sans goût, dorment sans repos, rient sans joie et se traînent plutôt qu'elles ne marchent. Donc, c'est couper court avec le mal, couper court avec le péché et couper court avec les affections au péché. Alors, comment faire pour couper court aux affections au péché? Alors, c'est de soigner justement la contrition. Et alors, pour ça... C'est dans cette perspective-là qu'il a écrit 10 méditations, si vous avez regardé dans l'introduction à la vie dévote, c'est les chapitres 9 et suivants, pour se remettre devant Dieu, se prendre conscience à la fois de notre péché, s'arrêter pour prendre conscience de notre péché et de l'amour de Dieu. Et alors, il y a une méditation sur la création, sur la fin pour laquelle nous sommes créés, sur les bienfaits de Dieu, sur les péchés, sur la mort, le jugement, l'enfer, le paradis, le choix du paradis, le choix de la vie dévote. Donc, il propose chaque jour de prendre ça. Le matin, il dit il faut mieux se lever un peu plus tôt. Et puis comme ça vous habite pendant la journée. Donc, vous avez un programme sur 10 jours, là, jusqu'à la Semaine Sainte. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de... Voilà, on a besoin de nourrir notre intelligence et nos motivations pour changer. On voit que c'est pas d'abord à la force du poignet, c'est parce qu'on voit un bien qu'on peut changer. Mais c'est pas uniquement, ben, je le fais voilà, en serrant les dents, mais non, du coup, je prends un temps de contemplation pour voir que c'est vraiment bien. Parce que, bien sûr, ça nous coûte, hein, mais en même temps, je vois la finalité, je vois que c'est... Et cinquième point dans cette première partie, c'est l'engagement à servir Dieu. Alors, c'est au chapitre 20, c'est la fin de la première partie. Protestation, alors dans le sens d'engagement, hein, authentique pour graver dans l'âme la résolution de servir Dieu et pour conclure les actes de pénitence. Donc voilà, c'est une prière où on s'engage devant Dieu. Ben voilà, je veux vraiment te suivre et avancer dans le chemin de la sainteté. Ça correspond plus ou moins d'ailleurs pendant la vigile pascale. Ça ressemble un petit peu à ça, hein, vous vous rappelez, dans la vigile pascale, c'est on renonce au péché et on croit en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, voilà ce qu'il dit, je renonce aux démons, au monde et à sa chair, je déteste leurs malheureuses suggestions, leurs pompes et leurs œuvres pour tout le temps de ma vie présente et pour toute l'éternité. Et je me tourne en même temps vers mon Dieu, si bon et si clément, et je m'engage envers lui par une résolution irrévocable à le servir, à l'aimer maintenant et toujours. Il y a vraiment un engagement. Ça, c'est la première partie, c'est comme ça que se termine la première partie de la conclusion. Voilà. Voilà, alors ça, c'était la première partie. Maintenant, c'est sur l'ascèse. Alors, vous êtes venus, c'est le carême, donc c'est bien. Et en fait, c'est très intéressant parce que François de Sales a une manière très particulière qui lui est tout à fait caractéristique. Il n'est pas tellement pour les ascèses un peu, où on fait des exploits. C'est pas tellement dans sa veine. Il n'est pas contre le jeûne, etc. Mais c'est pour lui, c'est le cœur de l'ascèse, il n'est pas là. Hein, parce que quand on fait des exploits, notre orgueil peut s'y retrouver. Notre amour propre peut s'y retrouver. Donc, il est très attaché, justement, à débusquer notre amour propre. Ceci dit, c'est pas une mauviette non plus, François de Sales, hein, mais c'est pas le laisser aller, etc. C'est pas ça. Mais l'effort, il le met pas d'abord sur des choses extérieures, mais des choses beaucoup plus intérieures, qui sont pas moins exigeantes. Alors, j'avance. Par exemple, ça, c'est typique. Il y en a qui demandent des croix et ne leur semble jamais que notre Seigneur leur en donnera assez pour satisfaire à leur ferveur. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je n'en demande point. Seulement, je désire de me tenir prêt pour porter celle qu'il plaira à sa bonté de m'envoyer le plus patiemment et humblement que je pourrai. J'aimerais mieux porter une petite croix de paille que l'on me mettrait sur les épaules sans mon choix, que non pas d'en aller couper une bien grande dans un bois avec beaucoup de travail et la porter par après avec une grande peine. Et je croirais, comme il serait véritable, être plus agréable à Dieu avec la petite croix de paille que non pas avec celle que je me serais fabriquée avec plus de peine et de sueur, parce que je la porterais avec plus de satisfaction pour l'amour propre, qui se plaît tant à ses inventions, et si peu à se laisser conduire et gouverner en simplicité. Et du coup, ça c'est très très salésien, hein, cette manière de faire. Donc, dans la vie familiale, c'est simple. Hein. Plutôt que de choisir des pénitences, vous pouvez accueillir celles qui vous viennent de vos enfants ou de votre mari. Il y a des choses. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous énerve dans ce que font vos enfants ou votre mari. Mais sinon, c'est mieux que de choisir de jeûner trois fois la semaine ou je ne sais pas, et puis après de vous énerver. Alors, on se contrôle comme on peut, hein, quelquefois on s'énerve quand même, mais l'accent de saint François de Sales, c'est plutôt de prendre, pas s'inventer des pénitences, mais accueillir celles qui nous viennent. Il y en a déjà, si on veut bien les voir, il y a de quoi faire, hein, dans notre vie. Et il a fondé les Sœurs de la Visitation avec Jeanne de Chantal. C'était pour des religieuses, justement, qui avaient une santé fragile, etc. Donc, lui, d'entrée de jeu, il ne voulait pas des jeunes. Ça se pratiquait davantage à cette époque-là. Maintenant, habituellement, il n'y a pas des jeunes ou alors la flagellation, etc. Ça ne se fait pas beaucoup, beaucoup actuellement. Mais François de Sales n'était pas pour ces flagellations. Et pour le jeûne, oui. Mais pour les flagellations, je dis non, déjà accueillir ce que. Voilà. Donc, voilà, Et aussi, par exemple, que s'il y avait une sœur qui fût si généreuse et courageuse que de vouloir parvenir à la perfection dans un quart d'heure, en faisant plus que la communauté, je lui conseillerais qu'elle s'humiliât et se soumît à ne vouloir être parfaite que dans 3 jours, allant le train des autres. Ça, c'est tout à fait François de Sales. Voilà, mais aller au rythme des autres, ça sera ça votre pénitence, plutôt que d'être la première. Alors, des exercices de mortification intérieure, c'est dans la troisième partie, chapitre 23. Si vous pouvez supporter le jeûne, vous ferez bien de jeûner quelques jours. Donc, quand même quelques jours. Il y a un S à quelques. Outre les jeûnes que l'Église commande. Parce que, bon, c'est très bien. Si le travail que vous faites vous est nécessaire ou est fort utile à la gloire de Dieu, j'aime mieux que vous souffriez la peine du travail que celle du jeûne. Donc, il dit, il vaut mieux que tu ailles travailler que de jeûner, si tu as choisi entre les deux. Alors, un peu plus loin, il me semble que nous devons avoir en grande considération la parole que notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Mangez ce que l'on vous servira. C'est, je crois, une plus grande vertu de manger sans choix ce qu'on vous présente, soit que vous l'aimiez, soit que vous ne l'aimiez pas, que de choisir toujours le pire. Car encore que cette dernière façon de vivre semble plus austère, l'autre néanmoins a plus de résignation, car par elle, on ne renonce pas seulement à son goût, mais encore à son choix. Ajoutez que cette sorte de mortification ne paraît point. Personne ne s'en rend compte. On ne fait pas le difficile. Il y a des choses peut-être qu'on nous sert, qu'on aime moins. Personne ne le voit. Cette sorte de mortification ne paraît point, n'incommode personne et convient tout à fait aux usages de la vie civile. Repousser un plat pour en prendre un autre, regarder de près et tâter toutes les viandes, ne trouver jamais rien de bien apprêté ni d'assez propre. Faire des mystères à chaque morceau, tout cela ressent un cœur mou et esclave de sa bouche. Voilà. Donc, en cette indifférence du boire et du manger consiste véritablement la perfection de cette parole, mangez ce que l'on vous servira. Ça, c'est caractéristique de François de Sales. Hein, il ne faut pas s'inventer des pénitences, mais voilà, accueillons la réalité. Ça, c'est d'une autre manière, hein, on l'a évoqué, je crois. François de Sales nous invite à accueillir la réalité telle qu'elle est, pas se faire des choses. Et accueillir la réalité telle qu'elle est, c'est pas toujours simple. On voudrait qu'elle soit un peu différente, voilà. Et ça simplifie notre vie quelque part à un certain moment d'accueillir la réalité. Et ça simplifie la vie commune aussi. Je peux témoigner. Voilà. Alors, il se réfère à l'histoire de Balaam. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam avec son ânesse? Et donc, c'est dans le. C'est à quel endroit? Bon, c'est dans l'Ancien Testament, je ne sais plus très bien. Et alors, dans la Genèse, je pense. Et alors, Balaam allait trouver Balak, un roi païen. Et il voulait prophétiser contre le peuple d'Israël. Alors il y a un ange qui se met en travers du chemin, mais Balaam ne le voit pas, mais l'ânesse, elle le voit. Donc l'ânesse, elle s'arrête, tout ça, alors il la bat, etc. Et puis, à un certain moment, elle lui dit, par un grand miracle, que t'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu déjà frappé 3 fois? Et aussitôt, les yeux de Balaam s'étant ouverts, il vit l'ange. Il vit l'ange qui lui dit, pourquoi as-tu battu ton ânesse? Et alors, François de Sales fait le parallèle avec les jeûnes et quand on maltraite son corps, pourquoi tu maltraites ton corps? Il n'y a pas de raison de maltraiter comme l'ânesse, il n'y avait pas de raison parce que elle avait vu l'ange et, et elle t'a empêché d'aller au-delà. Donc, voilà. Donc, vraiment. abstiens-toi de frapper ton corps d'une manière ou d'une autre. Donc c'est préférer l'humilité, on va dire, à l'austérité. Deuxième point, bon, mais ça rejoint un peu, hein, c'est accepter les petites humiliations ou contrariétés quotidiennes. Il fait souvent un peu d'humour. Il y a des gens, quelquefois, qui sont prêts à aller au martyr et tout ça, théoriquement. Et puis, il y a une petite pénitence qui se présente devant eux et ils râlent. Ces petits devoirs de tous les jours, ce mal de tête, ce mal de dents, cette infection, cette bizarrerie du mari ou de la femme, ce verre brisé, ce mépris ou cette moue, cette perte de gants, d'une bague, d'un mouchoir, cette petite incommodité d'aller se coucher de bonne heure et de se lever matin pour prier, pour communier, cette petite honte que l'on a de faire publiquement certaines pratiques de dévotion. Bref, toutes ces petites misères étant prises et embrassées avec amour seront très agréables à la bonté divine, qui pour un seul verre d'eau donné en son nom a promis à ses fidèles des torrents de félicité. Pratiquer les petites et humbles vertus qui, comme de simples fleurs, croissent au pied de la croix. Le service des pauvres, la visite des malades, le soin de la famille avec les œuvres qui en dépendent, et cette activité précieuse qui ne vous laissera pas un seul instant oisive. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement, mais les petites sont très communes. Or, qui sera fidèle dans les petites choses, dit le Sauveur lui-même, on l'établira sur de grandes. Donc voilà. Et Saint François de Sales insiste plutôt pour cultiver l'humilité. Alors ça, c'est tout dans la troisième partie, je ne vais pas tout lire. Par exemple, nous disons souvent que nous ne sommes rien, que nous sommes la misère même et le rebut du monde. Mais nous serions bien fâchés qu'on nous prie au mot et que l'on parle ainsi de nous. Au contraire, nous faisons semblant de fuir et de nous cacher afin que l'on court après nous et qu'on nous cherche. Nous affectons de prendre la dernière place pour arriver avec plus d'honneur à la première. La vraie humilité ne fait pas semblant de l'être et nous guide. Dit guerre de paroles d'humilité. On voit que Saint François de Sales, il n'est pas fou. Hein. Mais je pense qu'il a expérimenté en lui-même d'abord. On est tous fait pareil de la même patte. Et alors, il est attentif à distinguer l'humilité de ses contrefaçons. Par exemple, plusieurs refusent d'employer leurs talents au service de Dieu et du prochain. Parce que, disent-ils, connaissant bien leur misère, ils ont peur de s'enorgueillir s'ils sont l'instrument de quelque bien et redoutent de se consumer en voulant éclairer les autres. Tout cela n'est qu'un artifice et une sorte d'humilité non seulement fausse, mais maligne. Voilà, si tu as des dons, c'est une fausse humilité que de ne pas t'en servir. Au contraire, ce qui finalise les choses, c'est la charité. Les autres... Il fait semblant de porter un grand respect à Dieu, voilà, et sous prétexte d'humilité, s'excuse d'aspirer une grâce que la divine bonté lui offre. L'humilité couvre et cache tout ce qui est vertu et perfection humaine. Elle ne les fait jamais paraître que pour la charité, qui n'étant pas une vertu humaine mais céleste, non pas morale mais divine, est véritablement le soleil des vertus sur lesquelles elle doit toujours dominer. Là, on voit l'équilibre de François de Sales. Il y en a qui veulent paraître fous. François de Sales dit ben, « c'est pas ma spiritualité, grosso modo. » Si quelques grands serviteurs de Dieu ont fait semblant d'être fous, il faut les admirer, mais non pas les imiter. Car ils ont eu pour cela des motifs si particuliers et si extraordinaires que personne n'en doit tirer aucune conséquence pour soi. On parle de David qui danse devant l'arche, etc. L'humilité qui nous fait accepter de bon cœur nos limites et faiblesses. Notre imperfection doit nous accompagner jusqu'au cercueil. Nous ne pouvons marcher sans toucher terre. Il ne faut pas s'y coucher ni s'y vautrer, mais il ne faut pas penser voler, car nous sommes de petits poussins qui n'avons pas encore nos ailes. » Alors, vous êtes des petits poussins. Alors, il y a des mots qui sonnent assez fort dans nos oreilles. « Que l'humilité nous fait aimer notre propre abjection. » Alors, il prend comme exemple pour ça de Marie qui dit, il a posé son regard sur son humble servante. Alors, sur la bassesse de sa servante, ou je ne sais plus très bien les... Ah, oh oui, ça. Il y a des vertus abjectes et des vertus honorables. Alors, voyez les vertus abjectes. Alors, abject, c'est au regard des hommes, au regard du monde. Il faut bien le comprendre. La patience, la douceur, la simplicité et l'humilité sont des vertus que les mondains tiennent pour viles et abjectes. Au contraire, ils estiment beaucoup la prudence, la vaillance et la générosité. Et en fait, c'est assez juste. Dans le développement personnel, on ne développe pas tellement l'humilité, la patience, la douceur. Ce n'est pas tellement là-dessus, mais plutôt d'être plus performant. Finalement, habituellement, c'est dans le développement personnel, c'est plutôt dans cette veine-là. Mais c'est, et je ne suis pas contre le développement personnel, mais en même temps, il faut voir aussi la limite du développement personnel si c'est pour se regarder soi-même et, voilà, et s'admirer soi-même. Alors, des exemples très simples. Je tombe dans la rue et outre le mal que je me fais, j'ai encore de la confusion. Il faut aimer cette abjection. Il y a même des fautes où il n'y a aucun mal, si ce n'est l'abjection qui en résulte. Et l'humilité n'exige pas qu'on les fasse expressément, mais bien qu'on ne s'en trouble point quand on les a commises. Si je me suis laissé aller à la colère, ou à dire de mauvaises paroles, je me repentirai vivement de cette offense et je tâcherai de la réparer le mieux qu'il me sera possible. Ça nous humilie, mais il dit, ça ne nous fait pas de mal. C'est vrai qu'il y a des fautes, tout le monde les voit. Mais quand tout le monde les voit, quelque part, elles sont déjà expiées. Il y a des fautes, personne ne les voit, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont plus belles. Les meilleures abjections sont celles que nous avons par accident. Ce n'est pas celles qu'on a choisies, c'est... Moi, ça nous a surpris, on s'est mis en colère parce qu'une chose nous a énervés. Voilà, c'est... Alors, il y a un chapitre qui est dédié à la bonne renommée. On voit là encore l'équilibre de François de Sales. Il dit, mais non, c'est pas mal d'avoir une bonne renommée, d'avoir une bonne réputation. Mais il ne faut pas une crainte excessive de perdre sa réputation. Et puis, oui, de ne pas y être attaché plus que ça, mais bien sûr... Mais si l'on nous blâme injustement, posons paisiblement la vérité à la calomnie. Il y a un livre qui était paru, c'est un livre du 19e, c'est « L'art d'utiliser ses fautes ». C'est Oblat de Saint-François de Sales, je crois qu'il l'a écrit. Joseph Tissot. Alors, selon Saint-François de Sales, c'est plein de citations de... Ces colères, dépit et aigreur que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil et n'ont pour origine que de l'amour-propre qui se trouve et s'inquiète de nous voir imparfaits. C'est l'amour-propre qui fait que nous nous impatientons de nous voir pauvres et misérables. Alors, l'art d'utiliser ses fautes, elle nous rappelle que on n'est pas encore arrivé, il y a encore du chemin à faire. Donc c'est « Ayez patience avec tous, mais principalement avec vous-même ». La vie spirituelle, c'est toujours recommencer. Les fautes nous incitent à accueillir notre faiblesse. Il faut une grande faute, ceux qui s'étant mis en colère se fâchent de s'être mis en colère, car ainsi ils tiennent leur cœur trempé dans la colère. Mais ça a pour origine que l'amour propre qui se trouble et s'inquiète de nous voir imparfaits. Ayez grand soin de ne point vous troubler lorsque vous aurez fait quelque faute. Mais humiliez-vous dès que possible devant Dieu, et que ce soit d'une humilité douce et amoureuse qui vous porte à la confiance de recourir immédiatement à sa bonté. Haïssez donc vos imperfections parce qu'elles sont des imperfections, mais aimez-les parce qu'elles vous font voir votre rien et votre néant, et qu'elles sont sujettes à l'exercice et perfection de la vertu et miséricorde de Dieu. Il faut souffrir notre imperfection pour avoir la perfection. Je dis souffrir avec patience et non pas l'aimer ou la caresser. L'humilité se nourrit de cette souffrance, de cette souffrance de se voir imparfait. Voilà, c'est très simple. Et François de Sales nous apprend à nous prendre aussi avec douceur, pas seulement vis-à-vis des autres, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Ce n'est pas sous le même rapport quand on les hait parce qu'elles sont des imperfections, mais on les aime sous le rapport où elles nous... Je prends conscience que j'ai encore du chemin à faire, etc. Mais je les aime pas pour elles-mêmes, mais pour l'effet qu'elles ont en moi. Voilà, et puis parce que nos faiblesses nous poussent à recourir à l'amour de Dieu. Le saint, ce n'est pas celui qui est parfait, et du coup, à la limite, il n'aurait plus besoin de Dieu. Ce n'est pas du tout ça, le saint. Le saint, c'est celui qui a besoin de Dieu, et qui est content d'être en relation avec Dieu, ne serait-ce que pour lui demander pardon. Mais il parle beaucoup de l'amour propre. Hein. L'amour propre peut être mortifié en nous, mais il ne meurt pourtant jamais. Ainsi, de temps en temps et à diverses occasions, il produit des rejetons en nous qui témoignent qu'encore qu'il soit coupé par le pied, il n'est pas déraciné. Il ne faut nullement s'étonner de trouver toujours chez nous l'amour propre car il n'en bouge pas. Il dort quelquefois comme un renard, puis tout à coup il se jette sur les poules. C'est pourquoi il faut avec constance veiller sur lui et avec patience et doucement se défendre de lui. Il faut haïr nos défauts, mais d'une haine tranquille et calme, non point d'une haine dépiteuse et troublée. Il faut avoir la patience de les voir et en tirer le profit d'un saint mépris de nous-mêmes. Et puis du coup, là, il dit que c'est bien quand on voit nos imperfections. Ça nous plaît plus ou moins, mais... Voilà. Et aussi, l'art d'utiliser ses fautes, si on est plus conscient de ses limites, on est un peu plus indulgent vis-à-vis des autres. Je veux aussi que nous ne nous troublions point de celles d'autrui, nous souvenant des nôtres, car pourquoi trouverions-nous étrange que les autres aient des imperfections, puisque nous en avons bien. Ça, c'était la deuxième partie. Le combat qui est beaucoup le combat par rapport à l'amour propre hein, chez Saint François de Sales, c'est vraiment le... quelque chose. Oui.
Comment distinguer l'amour propre et l'appel qu'on a quand même à s'accueillir tel qu'on est et à s'aimer pour ce que le Seigneur a mis en nous ?
Alors, bien sûr, il s'agit d'avoir une estime de soi-même, un amour de soi-même, un vrai amour de soi-même. Mais du coup, comment dire, l'amour propre, c'est un amour où on n'est pas vraiment dans la relation avec les autres, je pense. Tandis qu'une estime de soi-même, je n'ai pas besoin d'être plus meilleur que l'autre ou je suis ce que je suis. Mais tandis que l'amour propre, tout de suite, il y a souvent de la comparaison. Voilà, je pense que ça, c'est un peu le ver dans le fruit. Bien sûr qu'il faut s'aimer. Aime les autres comme toi-même, donc ça veut dire qu'on s'aime. Mais il y a une manière de s'aimer où, sans comparaison, bien sûr qu'il faut s'aimer. Et ça serait un péché de ne pas s'aimer. Parce que Dieu nous aime. Vous savez le dernier mot de Sainte-Claire, à peu près. C'était « Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé ». Je pense qu'elle s'aimait, Sainte-Claire. Mais pas d'une manière orgueilleuse. Voilà. Alors, les tentations. Que faire devant les tentations? Ça, c'est dans la quatrième partie. Il y a quelque chose qui revient assez fréquemment pour Saint François de Sales. Il y a trois choses. Dans la tentation, il y a la tentation, il y a la délectation et le consentement. Trois éléments. La tentation, elle reste à l'extérieur de nous. Alors, il prend l'exemple Je vous lis ce que dit saint François de Sales. Imaginez-vous filoter une jeune princesse extrêmement aimée de son époux, et donc quelque libertin prétend corrompre la fidélité par un infâme confident qu'il lui envoie pour traiter avec elle d'un si détestable dessein. Premièrement, ce messager fait part à la princesse des intentions de son maître. Secondement, la princesse se plaît ou se déplaît en la proposition. Troisièmement, ou elle consent ou elle refuse. Ainsi, Satan, le monde et la chair, voyant une âme unie au Fils de Dieu, lui envoie des tentations et des suggestions par lesquelles le péché lui est proposé, l'âme se plaît ou se déplaît en la proposition, et enfin elle consent ou elle refuse. Ce qui fait en somme trois degrés pour descendre à l'iniquité, la tentation, la délectation, le consentement. Donc, tant que c'est la tentation, on n'est pas, on n'y peut rien. Alors, avec le bémol que François de Sales mettra un peu plus loin, c'est que quelquefois, on se met dans des lieux où, peut-être pour notre chasteté, dans certains lieux, ce n'est pas très favorable, quoi. Donc, évitons de se jeter dans les tentations. Et là, c'est clair que dans certains cas, on se met en du toboggan et puis après, on s'étonne de tomber, de glisser jusqu'en bas. Alors là, quelquefois, c'est si on va au-devant des tentations. Là, c'est un peu aller au-devant des tentations. On sait bien quelquefois une complicité en nous. On sait que en faisant telle démarche, on prend quelques risques quand même. Alors, sans être complètement timoré, il faut mesurer les risques. Donc c'est la tentation. Après, la délectation. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, les attaches au péché, les inclinations, etc. Où on ne tombe pas formellement, on ne tombe pas, mais ça nous travaille dans l'esprit, etc. Et quelque part, on laisse cogiter, on laisse... Alors, matériellement, on n'est pas tombé. Mais c'est ce que dit Jésus aussi, celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère. Elle ne l'a pas commis matériellement, physiquement, mais déjà dans sa tête, il est dans la phase de la délectation déjà. Hein? Donc il y a ces trois étapes. Alors il prend l'exemple de Sainte Catherine de Sienne, qui a connu des grandes tentations, et à un certain moment, elle avait une intimité avec Dieu, et elle lui dit « Mais où étiez-vous, ô mon doux Seigneur, pendant que mon cœur était plein de tant de ténèbres et d'ordures ?» À quoi il répondit « Ma fille, j'étais au-dedans de votre cœur. » « Et comment, répliqua-t-elle, pouviez-vous habiter mon cœur tandis qu'il y avait tant de vilainies ? Habitez-vous donc en des lieux si déshonnêtes ?» Et notre Seigneur lui dit « Dis-moi, ma chère fille, toutes ces sales pensées qui étaient en votre cœur, vous donnait-elle du plaisir ou de la tristesse, de l'amertume ou de la joie ? Elle répondit, une extrême amertume et tristesse. Et donc, voilà, j'étais avec toi. Et c'est important pour la tentation, parce que le démon nous fait croire que déjà on a déjà perdu. Donc, allez, on y va. De toute façon, un peu plus, un peu moins. Voilà, alors qu'on est dans la tentation, on est plutôt du côté de Jésus qui porte sa croix, et Jésus qui est au jardin de l'agonie. Mais tant qu'on n'a pas succombé, on est du côté de Jésus, on n'est pas du côté du démon. Mais quelque part, il nous fait croire que finalement, on est déjà tombé. Les remèdes aux grandes tentations. Alors, se tourner vers la croix de Jésus, le dimanche dernier, c'était justement la croix qui était proposée, le serpent d'airain, hein, qui était de regarder le serpent d'airain. Non, je ne sais plus si c'est ce dimanche-là. Hein. Alors, il donne des conseils très concrets, donc regardez la croix. Il dit, ne regardez pas la tentation en face, mais regardez seulement notre Seigneur. Car si vous regardez la tentation, surtout quand elle est forte, elle pourrait ébranler votre courage. Vous ferez bien aussi de distraire votre esprit par quelque occupation bonne et louable. Car cette occupation, entrant dans votre cœur, y prendra place et éteindra le sentiment de la tentation. Et ça, c'est vrai, hein, quand il y a quelque chose qui nous travaille, mais plutôt de fuir en quelque sorte ou de trouver autre chose, de distraire notre esprit. Et il ajoute, le grand remède contre toute tentation, grande ou petite, c'est d'ouvrir son cœur à son directeur, son père spirituel, en lui faisant connaître les suggestions de l'ennemi et les impressions qu'elles font. Parce qu'il dit, semblablement cela, un libertin qui, voulant débaucher une femme, commence par lui recommander le secret. Et justement, le fait de parler, ben c'est déjà le démon a déjà. François de Sales nous dit aussi, pas combattre seulement les grandes tentations, mais aussi les petites, pas seulement les loups et les ours, mais les mouches. Et là, pareil, il faut pas s'en tourmenter. Occupez votre cœur de quelque chose de bon, et spécialement de l'amour de Dieu. La nature a horreur du vide, mais du coup, si on veut, il faut remplacer par autre chose. Et dans les tentations, il ajoute deux chapitres, et je trouve ça intéressant, par rapport à l'inquiétude et la tristesse, alors qu'ils ne sont pas des tentations en elles-mêmes, mais qui sont des circonstances qui font qu'on est beaucoup plus vulnérable aux tentations. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui le disent, hein, mais donc François de Sales invite justement à pas se laisser saisir par l'inquiétude. Bon, après, selon notre tempérament et tout ça, c'est pas toujours simple, hein, mais on le voit dans François de Sales, c'est beaucoup une forme de simplicité. Et puis là aussi, l'inquiétude de se prendre trop la tête. Ne permettez jamais à vos désirs de vous inquiéter, quelque petit ou quelque peu important qu'ils soient. Quand vous vous sentirez arriver l'inquiétude, recommandez-vous à Dieu et résolvez-vous de ne rien faire du tout de ce que votre désir vous demande, jusqu'à ce que l'inquiétude soit totalement passée. La tristesse, alors il peut y avoir une bonne tristesse qui nous fait nous détourner du mal, mais souvent la mauvaise tristesse trouble l'âme, la met en inquiétude, lui donne des craintes déréglées, la dégoûte de l'horizon. Elle assoupit et accable le cerveau. Saint François d'Assise, hein, qui était le patron de Saint François de Sales, incitait beaucoup à être dans la joie. Et une fois que vous êtes dans la joie, ben les tentations ont beaucoup moins de prise sur vous. C'est pour ça que si on se laisse aller à la tristesse, on donne prise, davantage de prise. C'est Jacques Fesch, vous connaissez, je m'y réfère souvent. Il allait être guillotiné, donc, et son avocat vient le trouver, il est tout heureux dans sa prison. Alors on se dit, mais vous réalisez un petit peu dans quelques jours. Et Jacques Fesch lui répond, oui, j'ai bien conscience, mais je sais que quand je suis dans la tristesse, tous mes vieux démons reviennent et j'arrive pas à les lutter. Donc j'ai remarqué que quand j'étais dans une certaine joie, mais c'est comme quand on allume la lumière, toutes les souris s'en vont et voilà. Et donc il y a deux manières de lutter, soit pied à pied contre mes vieux démons, mais j'en ai pas la force, soit d'entretenir cette joie, comme dit saint Paul, soyez dans la joie. Et à ce moment-là, je donne moins prise aux tentations. Donc François de Sales va tout à fait dans le même sens. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de saint François de Sales sur le combat spirituel, sur cette purification, cette humilité, hein, puisqu'il insiste beaucoup là-dessus, et comment faire devant les tentations. Alors après, vous pouvez lire, hein, tout est dedans. Sais pas si vous avez telle ou telle question.
Devant tout le monde. Non, mais parce que on l'a vécu. En fait, on devait aller en procession et dire juste un péché, ça va, devant le prêtre. Et puis, Et donc là, je pensais justement,
Ah oui, c'est pas absolution collective, c'est pas absolution collective. Non, non, ça n'a rien à voir.
Confession générale, quand on va se confesser, on ne va pas reprendre.
D'ordinaire, non. Mais là, c'est quelquefois c'est proposé dans certaines retraites qui marquent vraiment un avant et un après. Mettons une retraite de discernement ou quelquefois c'est proposé.
De reprendre de l'enfance.
Oui, alors on ne prend pas forcément dans le détail, sinon. Mais les grandes lignes. Et c'est intéressant. Quelquefois, il y a des personnes à cette occasion qui se rappellent de telle ou telle chose. Elles savent pas si elles l'ont confessé un jour. Mais c'est des choses qui pètent de leur enfance et qui reviennent à ce moment-là. Voilà. L'idée, c'est pour un nouveau commencement, mais on n'est pas obligé de la faire. Hein, une fois que les péchés sont pardonnés, ils sont pardonnés. Ah. Alors. Ah oui, oui, il trouve que ça a du bon de jeûner. Et c'est bien de jeûner. Oui, oui, il faut. C'est très. Bon, il y a ce que demande l'Église, mais bon, de toute façon, l'Église demande le mercredi des cendres et le vendredi saint, hein, pour ceux qui dont la santé le permet. Donc, bien sûr, il est. Ne serait-ce que parce que l'Église le demande. Et ça, François de Sales, ben, si l'Église le demande, je ne me fais pas des nœuds dans la tête, j'obéis et puis point. Mais lui n'est pas tellement porté sur les pénitences corporelles, François de Sales. Il dit que c'est bien de jeûner de temps en temps parce que justement ça permet peut-être d'apprendre une maîtrise de soi par rapport à la nourriture et tout ça. Mais pas pour en faire de l'héroïsme. C'est plutôt le côté un peu héroïsme qui ne lui parle pas beaucoup. Oh, alors je ne sais plus comment il a dit. Oui, et les autres, c'est... Ah, et les vertus honorables. La prudence, la vaillance, la générosité sont des vertus honorables. La patience, la douceur, la simplicité et l'humilité, des vertus abjectes. Alors, le père Caffarel, il y en a qui avaient suivi une retraite du père Caffarel sur l'oraison. Il était assez strict. Hein. Mais il nous donnait une petite feuille et puis on cochait si on avait bien fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et la dernière question, comment vous évaluez votre prière? Alors, le premier jour, tout le monde me tombait dans le panneau parce qu'il dit... Vous ne pouvez pas évaluer votre prière. Alors, le deuxième jour, il y en a quelques-uns qui tombaient encore dans le panneau. Troisième jour, plus personne ne cochait. Parce que on ne sait pas ce que Dieu fait en nous, dans la prière. Quand vous êtes sur la table d'opération, vous ne savez pas ce que... Vous faites confiance au chirurgien. On est bien obligé. Non, alors, notre prière, elle reste pauvre parce qu'on ne possède pas Dieu. Hein, notre prière, elle reste pauvre. Alors, peut-être qu'à certains moments, on est peut-être moins distrait ou moins... Parce qu'on apprend quand même à canaliser un petit peu. On a, là, par exemple, il avait un schéma, le François de Sales. Il y a quelques éléments qu'il est bon d'intégrer pour... déjà se mettre en face de Dieu, d'avoir cet acte de foi au point de départ de la prière, etc. Après, on ne sait pas, il y a peut-être une prière où bon, ça nous a fait chaud au cœur, mais est-ce qu'elle était meilleure qu'une prière où on n'a rien senti du tout? Non, pas forcément. Nous, on préfère que ça nous fasse chaud au cœur, bien sûr. Mais la prière, c'est au regard de la foi qu'on l'estime, pas au regard du sentiment. Et c'est très dépouillant, c'est très dépouillant. On aimerait pouvoir... Mais quelque part, c'est parce qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu aussi.
Ce chaud au cœur, c'est beaucoup.
Oui, mais c'est pas le critère. C'est pas le critère. Ben, on aime bien sûr. Hein, on aime bien les bonbons. Mais le critère, c'est pas ça. Hein. C'est pas que ça nous fasse chaud au cœur. Alors, après, peut-être un signe quand même qui peut dire que c'est dans la durée, on voit si dans notre vie, ça change quelque chose dans notre vie. Est-ce que concrètement, mon amour de Dieu, finalement, je vis un peu différemment parce que j'ai eu cette relation avec Dieu. C'est plutôt là, peut-être, qu'on verra la fécondité de notre prière. Mais c'est pas à couper au couteau, hein, ça aussi. Hein, donc, mais si au bout de 10 ans de prière, on est toujours aussi désagréable avec les autres, c'est que peut-être dans notre prière, il y a peut-être des choses à améliorer. Bon, après, on a notre caractère aussi, hein, on n'a pas tous le même caractère, etc. Mais la prière, elle doit nous rendre meilleurs quand même, d'une certaine manière, tout en sachant qu'on aura notre imperfection, comme le dit François de Sales, jusqu'au bout. Hein, mais quand même que peut-être, voilà, il y a quelque chose qui changera quand même. Moi, je le verrais plutôt dans ce sens-là, s'il y a des signes d'une fécondité de ma prière, c'est que peut-être je suis plus paisible, et ça rejoint François de Sales, je suis plus paisible, je m'abandonne davantage entre les mains de Dieu. Et ça me traumatise plus de peut-être d'avoir des défauts, surtout si c'est devant tout le monde. Bon, j'ai une vraie paix intérieure. Je pense que ça peut être un fruit aussi de.